Vous écoutez
RMC.
Et quel plaisir d'être là avec les drôles de dames, avec vous tous en ce 19 août, lundi 20h14, CRMC Génération After spécial drôle de dames, comme tous les lundis, 20h, 22h, Fred Hermel, Johan Crochet, Paulo Breitner et Julien Laurence. On parle du Napoli d'ici un quart d'heure, mais d'abord, l'attraction de l'été, le transfert de l'année. On a enfin vu Kylian Mbappé sur un terrain avec le maillot du Real Madrid. C'était sa première en Liga hier soir, un partout contre Mallorca. Et ce premier match de Mbappé, t'as énervé Fredo ?
Oui, en fait, c'est-à-dire que moi, je trouve un peu ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances d'Mbappé. C'est-à-dire que il y a, on regarde à travers les beaucoup de gens. Je vois les commentaires qu'il y a eu un peu partout. Regarde l'intégration d'un joueur français extrêmement important. Et Dieu sait si on va avoir besoin de lui pour les prochaines échéances internationales. Je trouve que le regarder les performances d'Mbappé, l'intégration d'Mbappé avec la lunette du PSG, ça m'énerve. Il n'est plus au PSG. Donc en fait, les fans du PSG qui sont dégoûtés parce qu'il est parti veulent le voir se fracasser en Espagne et lui trouvent même, on l'accuse même d'être coupable sur le but de la tête de Muriqi de Mallorca, comme si c'était lui, comme si Ancelotti mettait au marquage Mbappé sur le numéro 9 de l'adversaire.
Tu parles d'une vidéo qu'on a beaucoup vue aujourd'hui, beaucoup relayée, où on voit Mbappé suivre un petit peu cet attaquant et
l'erreur, et c'est évident, c'est le saut à contre-temps de Rudiger qui est juste devant et qui coupe pas, il saute pas bien, et derrière c'est Muriqi, le joueur kosovar de Majorque qui marque. Donc je trouve ça un peu ridicule. Entre les gens qui vont l'aduler parce que ils sont anti PSG et que ils seraient ravis de le voir réussir ailleurs qu'au PSG, et puis ceux qui adorent le PSG, qui sont déçus, qui ont le seum et qui veulent le voir s'arrêter et enfin se fracasser la tête en Espagne. Non,
tu serais entre les deux.
Tu serais
objectif et t'en dirais
alors
quoi,
moi l'objectif, je sais pas ce que c'est, parce que l'objectif, je suis pas un objet, moi je suis un sujet, donc je suis naturellement subjectif
et appétitif.
J'essaie déjà d'être honnête, et l'honnêteté, c'est que je trouve qu'hier il fait un match très très correct. Il fait un meilleur match que son premier match, qui est la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta de Johan, où il marque, mais dans le jeu, il n'est pas encore très bien. Alors que là, hier, je trouve qu'il y a des choses très positives. Très positives. À commencer par quoi ? À commencer par sa condition physique. On l'a vu faire des courses, sincèrement, des quelques pointes de vitesse. Ça faisait plusieurs mois qu'on ne les voyait pas chez Mbappé. Donc il s'est bien préparé. Ce qu'il a fait en équipe de France, ce qu'il a fait au PSG, c'est plus mon problème. C'est plus son problème, c'est plus le nôtre. Ce qu'il fait là au Real, physiquement, ça va bien. Et puis dans le jeu, moi je trouve qu'il fait beaucoup d'appels, très intelligent, et que les autres joueurs répondent à ces appels. Et donc moi je trouve ça bien. Donc Mbappé, on est très très loin du grand Mbappé, bien entendu, mais il vient d'arriver dans une équipe, dans un nouveau pays, mais alors même s'il parle très bien la langue, une nouvelle équipe, etc. C'est une équipe qui débute aussi, qui démarre, où il y a une grosse différence entre ceux qui s'entraînent depuis des semaines et ceux qui, comme lui, ont 10 jours d'entraînement dans les jambes. Donc on va, moi je trouve que c'est bien ce qu'il fait pour l'instant. C'est-à-dire, si tu calcules, tu regardes un petit peu l'évolution, voilà, tu vois, un peu tu doses un petit peu ce qu'il doit faire au bout de deuxième match, ce qu'il doit faire, je trouve qu'il est dans les temps. Voilà, il est dans les temps pour l'instant. J'ai vu tellement de joueurs se fracasser au Real Madrid.
Et surtout avec si peu de prépa.
Ah oui, très bien. Mais moi, je le trouve bien physiquement. Bah oui, bien sûr. Et puis, il s'entraînait avec les autres depuis 10 jours.
L'année dernière, on a vu que toute sa prépa lui a coûté sa saison.
Mais bien sûr. Là, la prépa, elle est bien avec Pintus, Antonio Pintus, que Johan connaît bien. Très, très bon préparateur physique. Donc voilà, on va tenter de faire, d'observer ce que fait Kylian Mbappé sans ce prisme parisien qui me semble un petit peu un peu idiot en fait. Voilà, moi j'ai envie qu'il réussisse parce que moi je suis un supporter d'équipe de France et je veux que le meilleur Mbappé soit encore meilleur que quand il est parti, qu'il progresse, parce que quand on s'entraîne avec Carlo Ancelotti tous les jours, quand on s'entraîne avec Modric, avec Vinicius, avec des joueurs comme ça, bah oui, Carvajal, oui, on progresse. Et donc ça faisait un moment que Mbappé n'ait pas progressé. Donc moi je trouve ça bien qu'il soit au Real Madrid, qu'il se remette en cause. Et puis alors, un truc qui m'a énervé. Je vide mon sac.
Il revient chaque fois en vacances, celui-là.
Non, mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a un contre. Il démarre tout seul. Il va jusqu'au bout du contre. Il y a peut-être une faute, il y a peut-être pénalty. En tout cas, il y a faute à l'entrée de la surface. Ou juste avant la surface. Je vois plein de commentaires de gens qui disent « Ouais, super perso, il va se faire pourrir par Vinicius, etc. » Oui, Vinicius l'a accompagné dans ce contre. Mais Il y avait trois mecs sur Vinicius. Si Mbappé n'avait pas fait la place tout de suite, après, ça me semblait difficile de faire la place à Vinicius. C'est-à-dire que maintenant, on va regarder chaque petite chose en disant, oui, les persos, on essaye de retrouver au Real ce qu'on lui reprochait à Paris. Moi, j'ai vraiment le sentiment, pour l'instant, je dis pour l'instant, que le Mbappé, les défauts d'Mbappé du PSG, on les retrouve pas pour l'instant au Real Madrid.
Bah, Julien, toi qui as une accointance avec le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que tu penses de ces premiers pas de Mbappé au Real et de ce que dit Fredo, surtout ce prisme parisien finalement pour juger Mbappé?
Moi, je sais pas, moi, si les gens veulent qu'il échoue ou pas au Real, je vois pas pourquoi ils aimeraient qu'il
bon,
échoue. Après,
20 minutes, un jingle.
Sur la performance. Non, mais sur la forme d'hier, sur le match d'hier, sa performance, il a une ou deux occasions qui sont plutôt des occasions intéressantes où il aurait pu marquer, où il a bien fait de bons arrêts. Après, dans le jeu, il a raison, Fredo, ça va prendre du temps, mais c'est normal, il arrive, c'est nouveau de jouer avec Vinicius, de jouer avec Rodrigo, de jouer avec Bellingham, les déplacements, les courses, tout ça. Je suis d'accord sur le côté physique aussi de ce que Fredo dit, je trouve qu'il a l'air plutôt en forme, c'est bien. Après, oui, hier, il aurait peut-être pu être un peu plus efficace, c'est sûr. Oui. Mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé ça mauvais hier, mais j'ai pas trouvé ça non plus mauvais en Super Coupe contre l'Atalanta. Et puis, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Après, la une de Marca, elle est assez négative quand même. Donc,
mais en fait,
aussi ce son de cloche un petit peu, pas que sur Kylian. Hein,
bah, c'est sur ça, parce que le problème, c'est que j'en ai fait un partout. Mais c'est la, Bayern, une, oui. La une de Marca, elle est sur l'ensemble de l'équipe.
Voilà, ah ouais, il a dit quoi la une?
Non, je sais plus quel est le titre. Enfin,
c'est Pinchasso, je crois.
Pinchasso, ça veut dire. Oui, Pinchasso, c'est quand tu crèves ta roue, en fait. C'est...
Ouais, dégonflé ou crevé.
Ouais, voilà, c'est le Real, c'est dégonflé, un truc.
Ouais,
mais en fait, ce qui s'est passé avec le Real Madrid, moi, je connais tellement, c'est que là, les mecs, ils se disent avec Mbappé, tout ça, nanana, ils ont joué très, très bien le premier quart d'heure, ils ont marqué très vite, et après, ils ont joué à la baballe. Ils se sont fait plaisir. Sauf que, face à Mallorca, qui avait une grosse envie de faire quelque chose dans ce match, ils ont été, comment dire, dépassés par l'envie de Mallorca. C'est-à-dire que, non, la Liga reste un championnat très compétitif et que tu peux pas, même si t'es Mbappé, même si t'es Vinicius, tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Et donc, moi, ce que je trouve un petit peu ridicule, c'est de voir... C'est-à-dire que quand tu lis les articles de Marca, bien sûr, la une, c'était le début de Mbappé, donc tu mets la photo de Mbappé. Mais dans les articles, par exemple, tu vois que les journalistes espagnols, mes confrères, disent aussi qu'Mbappé a été meilleur que l'autre, lors du premier match, qu'Mbappé fait des choses intéressantes. Vinicius, par exemple. Après, le truc aussi, là aussi, oui, il était sorti après Vinicius. Il a pas été sorti. Vinicius a été sorti à la 87e. Vinicius a fait une deuxième période catastrophique. Il était très énervé. Je pense qu'à un moment, il aurait pu se prendre un rouge. Heureusement que Carlo Ancelotti le sort. Lors de la Super Coupe d'Espagne, d'Europe, Mbappé était sorti avant Vinicius. Donc voilà, il faut pas.
En fait, c'est ça qui pend au nez du Real.
On analyse plein de trucs en fait qui n'existent pas.
C'est ça qui pend au nez du Real cette année. Finalement, c'est avec toutes ces stars, ce côté.
La Liga, ça va être trop facile pour moi.
Oui,
voilà,
c'est ça.
C'est ce côté-là. Ouais. C'est exactement ça.
Mais Ancelotti,
il était pas content.
Il va pas laisser passer ça.
Il va pas laisser passer. Et finalement, c'est pas plus mal que ça arrive lors du premier match. Tu vois, à l'extérieur, parce que comme ça, t'as Ancelotti qui pique en général 2 à 3 gueulantes dans l'année, ça va lui permettre cette semaine, là il y a 2 jours de congé, cette semaine de gueuler un petit peu, dire les gars, c'est pas parce que maintenant il y a Mbappé, il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Rodrigo, que... Mais tu voyais dans le jeu comment ils adorent jouer ensemble, et parfois ils en font même un petit peu trop dans l'esthétique.
À tricote.
Tu vois, parce qu'il
y a un moment quand même en première période, Fredo aussi, où Vinicius déborde sur la gauche, il entre à l'entrée de la surface. Il y a Kylian qui est tout seul à l'entrée de la surface. Il a juste à passer le ballon latéralement. Il va chercher Rodrigo au deuxième poteau, alors que la solution elle est pour Kylian. Mais c'est aussi des automatismes, c'est des habitudes de jeu. Et puis c'est normal quand Rodrigo et Vini, deux Brésiliens qui se connaissent par cœur, qui peuvent jouer ensemble les yeux fermés, c'est normal aussi que Vini à un moment aille chercher plus Rodrigo au début que Kylian. C'est tout à fait normal. Et n'oublions pas, comme l'a dit Fredo aussi, ils ont joué il y a 4 jours contre l'Atalanta, alors que Mallorca avait eu toute la semaine pour se préparer pour ce match-là. Donc physiquement, je pense qu'aussi en seconde période, ils ont dû ressentir les effets des deux matchs en 4 jours.
Et c'est la raison pour laquelle on reproche, et Carlo n'a pas forcément dit non, les changements de Carlo étaient peut-être un peu trop tardifs. Il y avait des joueurs
ouais,
comme Brahim, comme Guler, qui s'entraînent depuis bien plus longtemps que la plupart des titulaires qui étaient là, auraient pu faire. Voilà, après, franchement, là aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser à la Liga maintenant et à la presse espagnole, parce qu'il y a Mbappé. Moi, mes copains espagnols, et moi, je continue à écrire dans l'As, etc. Il y a une manière de s'enflammer d'un côté et de l'autre. Voilà. on passe de l'enfer au paradis à chaque match. Donc voilà, il y a moins de mesures qu'on peut avoir en France. Donc voilà, il faudra pas prendre chaque titre de Marca ou de Haas pour quelque chose de définitif, parce que dans deux jours, ils peuvent changer.
D'ailleurs, hier à Majorque, il y avait Nadal, Majorquin et supporter du Real, et c'est le club. Et il a demandé le maillot à Mbappé à la fin du match.
Ah oui, bah oui. Change entre eux. Non, mais Rafa Nadal, c'est le plus grand. C'est avec Fernando Alonso, il y a plein de grands sportifs espagnols qui sont supporters du Real, bien sûr.
Un mot sur le Barça avant de passer au Napoli. On parlera de l'Atlético de Madrid et son recrutement XXL un peu plus tard dans l'émission. Le Barça qui s'est imposé difficilement à Valence 2-1. Mais là, pour le coup, ça t'a plu le Hansi Flick?
J'aime bien. Ouais. Bah, j'aime bien. Je trouve qu'il la ramène pas. Je sais pas ce que pourra en dire Polo. Je trouve que il est très diplomate. Il arrive doucement. Il se met doucement. Il console la situation. Bon, il a appris à mentir aussi quand on lui dit, par exemple, voilà, Olmo, on peut pas encore l'inscrire parce qu'on n'a pas le fair play financier, on n'a pas les sous, etc. Donc c'est la raison pour laquelle Gundogan va accepter de partir pour libérer une place, pour libérer un salaire qui va permettre d'inscrire en Liga Dani Olmo, qui est la grande recrue de cet été au FC Barcelone. Donc il a dit non, ben je mets pas Olmo parce que il a besoin de s'entraîner un peu plus. Non, il l'a pas pris pour le match à Valence parce qu'il pouvait pas l'inscrire. Mais moi j'aime bien le discours d'Hansi Flick. Je le trouve serein et ça fait du bien. Voilà. Et je même si les espagnols, les confrères espagnols, et c'est leur métier, c'est de le faire déraper déjà. Il contrôle. Je trouve qu'il est sur la réserve, etc. J'aime bien son attitude. Je sais pas ce qu'en pense Polo, toi qui le connais bien. Moi j'aime bien ce type, en tout cas de la sensation qui dégage de lui.
Alors Hansi Flick, moi je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est une énigme en Allemagne, ne l'oublions pas. C'était un ancien grand joueur, il joue au Bayern dans les années 80. Il a été finaliste de la Ligue de la Coupe d'Europe des clubs champions en 87, hein, c'est un international allemand, etc. Et puis il a toujours été dans le modernisme du football allemand. C'est-à-dire que lorsque l'Allemagne est championne du monde, ben, il est l'assistant de Joachim Löw. Lorsqu'il y a eu la révolution footballistique à Hoffenheim, il était déjà là-bas. Il a été co-entraîneur à Salzbourg, dont tous ces noms que je vous cite, rappelez-vous, c'est un peu tout le football allemand des 20 dernières années. Ensuite, rappelez-vous, il est devenu coach un peu par hasard, parce qu'il était toujours dans l'ombre un petit peu du Bayern Munich, et il fait une saison extraordinaire avec 21 matchs gagnés à la suite qui lui rapporte la Ligue des Champions 2020. Donc Hansi Flick explose aussi au sein du football allemand comme quelqu'un d'extraordinaire. Rappelez-vous, c'était la fameuse le fameux triplé, Jürgen Klopp, Hansi Flick, et Thomas Tuchel, les Allemands qui gagnaient la Ligue des Champions. Et puis évidemment, il y a son échec à l'équipe en équipe nationale 2022 qui a été un petit peu compliqué. Et puis là, je pense que c'est un excellent coup pour Barcelone. Mais le problème de Barcelone, je ne sais pas si c'est Hansi Flick ou si c'est le club de Barcelone, parce que je ne sais pas quelle garantie il a eu pour avoir une équipe compétitive. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, que je considère comme très intelligent, très fin d'ailleurs sur beaucoup de choses, qui dit beaucoup de choses dans les tribunes, qui sait très bien gérer son vestiaire, etc., en tant qu'ancien joueur. Mais j'aimerais bien savoir, moi, la situation en fait de Barcelone aujourd'hui. Et je sais pas s'il a fait... On parlait beaucoup de Thomas Tuchel aussi au Barça l'année dernière comme rumeur, etc. Je sais pas s'il a fait le bon choix. En tout cas, pour lui, à 59 ans, c'est extraordinaire. Puis c'est un beau gosse, je trouve, en plus. Donc ça fait
ouais, ouais, moi, je trouve qu'il passe bien. Mais en plus, moi, je sens plutôt réservé, parce que après Xavi, qui protégeait beaucoup Laporta, maintenant celui qui est en première ligne, c'est pas Flick, c'est Laporta, c'est le président.
D'ailleurs, sur l'équipe du Barça, Gundogan, qui par ailleurs a annoncé sa retraite internationale aujourd'hui,
il va partir. Ouais. Il a accepté, mais on l'a foutu dehors.
Hein. Non, mais c'est ça ce que j'allais dire.
Bien sûr,
on
oui. Non, mais là, enfin, c'est mes copains de Haas qui ont sorti l'information cet après-midi en disant qu'il avait accepté, en disant bah, si on veut pas de moi, je m'en vais. Mais voilà, alors comme toujours au Barça, du côté du club, on dit non, mais c'est l'entraîneur qui a dit à des co-directeur sportif que pour lui Gundogan n'entre pas dans son projet en tant que titulaire. Et puis du côté de l'entourage de Gundogan, on dit mais en fait c'est pas l'entraîneur, c'est le club qui veut que je parte pour libérer un salaire. On en est là, donc moi je pencherais plutôt là-dessus.
Quoi. Et juste sur la retraite internationale rapidement, Polo, est-ce que tu m'en veux si je dis que j'ai vu 82 sélections pour Gundogan et que j'en ai pas une seule qui me vient en tête où je me dis il a fait un grand match.
C'est un peu le problème de Gundogan avec la sélection nationale, c'est-à-dire qu'il est, même s'il a beaucoup été titulaire sur les dernières années suite à sa carrière extraordinaire, il a été un peu l'éternel remplaçant, et c'est assez dommage, parce que en fait, quand j'avais des contacts à la fédération allemande, on me disait que Gundogan était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui représentait l'avenir du foot allemand, etc. Et bon, il y avait une sacrée concurrence quant à Toni Kroos, quant à Mesut Özil, quant à différents Khedira à l'époque, qui a pris sa retraite depuis, qui est au milieu de terrain, c'est difficile de la trouver. Et en fait, il n'a jamais réussi à porter justement cette équipe d'Allemagne à l'image de la sélection qu'on a vue dans son Euro 2024. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça va rester un joueur de club. Moi, je me rappelle, je l'ai vu débuter à Nuremberg. Il jouait en numéro 10 à l'époque. Je l'ai vu débarquer ensuite à Dortmund. Il a explosé, etc. Et puis, il a fait la carrière qu'on connaît. Mais c'est quelqu'un qui va manquer, où il va manquer quelque chose. Alors que tu viens de le dire, il a plus de 80 sélections. C'est quand même pas mal du tout. Mais voilà, il manque quelque chose.
Dans un instant, direction l'Italie, dans Génération After, spécial drôle de dame, et le Napoli de Conte qui a pris 3-0 à Vérone. Déjà en crise, c'est ce que nous dira ou pas Yoann Crochet dans un instant, avec Fred Hermel, avec Paulo Breitner, avec Julien Laurence. On est en direct jusqu'à 22h comme tous les lundis.